I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ça fait maintenant presque 18 mois qu'a démarré un grand mouvement de prise de conscience et de libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles, démarré avec un slogan qu'on ne présente plus, MeToo. Petit à petit, le voile se lève sur des histoires et des comportements jusqu'ici passés sous silence. Les changements les plus visibles touchent particulièrement les industries culturelles et plus généralement les milieux qu'on qualifiera assez génériquement de créatifs. Le cinéma, la presse tout récemment dans le sillage de l'affaire de la Ligue du LOL, ou encore le monde de la publicité. Beaucoup de chemin parcouru en 18 mois, et comme disait l'autre, la route est droite mais la pente est forte. Il reste donc de nombreux endroits où l'on peine à affronter le problème. C'est notamment le cas du streaming de jeux vidéo, un pan désormais essentiel de la consommation culturelle, notamment chez les plus jeunes. Mais où règne encore un certain esprit masculin, pas des plus progressistes. Alors où en est le secteur? Pourquoi a-t-il du mal à se saisir du sujet? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Petit point lexique si cet univers vous est totalement inconnu. Le streaming de jeux vidéo, c'est donc très concrètement un exercice qui consiste à se filmer en train de jouer à tel ou tel jeu, à diffuser souvent en direct sa partie et à la commenter au passage tout en interagissant avec les spectateurs via un chat. Ça peut aller du basique, un joueur seul chez lui qui diffuse et commande de manière artisanale, jusqu'au très pro avec des plateaux, des installations dignes d'une chaîne de télé, des animateurs, etc., etc. La pratique a pris une réelle ampleur depuis quelques années, elle s'est structurée, professionnalisée, il y a désormais des stars, suivi par des centaines de milliers de fans et des enjeux financiers de plus en plus balèzes. Par exemple, Twitch, la plateforme la plus connue de streaming, a été achetée par Amazon pour près $1 milliard. Et ça, c'était il y a 5 ans, ça vous place un peu la barre. Ce décor posé, un constat s'impose. Derrière le succès et les gros sous, le milieu est avant tout masculin des deux côtés de l'écran. Pourtant, c'est pas comme si les femmes n'aimaient pas le jeu vidéo. Les études montrent qu'il y a quasiment autant de joueurs que de joueuses. Pourtant, côté streamer, ce sont surtout les mecs qui sont aux commandes. Pour comprendre pourquoi, on a tenté d'en causer avec des streamers professionnels, garçons et filles. Et ben, ça n'a pas été simple. On a essuyé beaucoup de refus avant de croiser la route de Caroline. Caroline, c'est son pseudonyme parce qu'elle ne souhaite pas s'exposer, preuve que le sujet reste extrêmement délicat. Elle a quand même accepté de répondre à quelques questions, à commencer par celle-ci. Quel regard porte-t-elle sur l'état du sexisme à l'heure actuelle dans le streaming de jeux vidéo?
C'est quelque chose qui évolue et dont on a plus conscience aujourd'hui, mais qui reste très très présent quand même. Ça ne suffit pas de dénoncer, en fait. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui change.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ça évolue, justement?
Les mentalités évoluent parce que les femmes se manifestent plus.
Ouais.
On en parle plus, on le dénonce plus. Du coup, il y a plus de visibilité là-dessus. C'est tout. Enfin, pour l'instant, à mes yeux, c'est comme ça que c'est, quoi.
Vous y avez été confrontée en tant que streameuse à ce sexisme ambiant, justement?
Moi directement pas beaucoup, très honnêtement, parce que le milieu je le connais un petit peu avant d'avoir commencé à le faire. Du coup j'ai peut-être pas été aussi vite décriée que certaines personnes en tant que streameuse, en fait. mais c'est des agressions qui sont très visibles sur d'autres streams, des amis à moi, des gens que je connais, etc. Et c'est une sexualisation constante, en fait, tout simplement.
Justement, ça allait être un peu ma question suivante. Quelle forme ça prend précisément, concrètement, ce sexisme ambiant, au-delà de l'état d'esprit un peu, est-ce qu'il y a des choses assez précises qui se passent et qui se répètent sur les différentes chaînes de stream?
Les réactions dans le chat en particulier, qui sont systématiquement des commentaires sur le physique de la fille, sur sa tenue, des tentatives de drague très ouvertes et très, très grossières parfois, et de la vulgarité, des insultes, tout ce qu'on peut imaginer, tout le florilège d'insultes pour femmes typiques, on le retrouve aussi complètement gratuitement, en fait, sans aucune raison. Pour moi, c'est l'agression la plus visible et la forme de sexisme la plus visible quand on fait du streaming et qu'on est une fille, en fait.
Ça, c'est du côté des spectateurs, on va dire. Et en coulisses, parce qu'il y a des échos qui nous remontent d'attitudes, d'état d'esprit aussi assez sexistes qui existent, mais là, plus de l'autre côté de l'écran, on va dire, pas forcément du côté visible.
Oui, là, ça sera peut-être un peu moins dans l'agression, mais c'est une remise en question constante de la légitimité pour une fille de le faire, en fait. Elle le fait uniquement parce qu'elle veut de l'argent, mais c'est dit de manière négative. Elle veut pousser les personnes qui vont regarder de sexe masculin à donner de l'argent parce qu'elles sont une fille et c'est tout ce qui les intéresse, a priori. Donc, il n'y a pas de question de la fille le fait parce qu'elle aime le jeu vidéo. Non, c'est juste, elle fait semblant d'aimer le jeu vidéo pour gratter de l'argent auprès des spectateurs de sexe masculin. Les gens, c'est ce qu'ils pensent derrière dès qu'il y a une fille qui se lance dans le streaming. Les streamers garçons, c'est souvent leur première réaction. C'est de toute façon, c'est encore une qui le fait juste pour se faire de l'argent, nanana, tout ça. Et aussi, du coup, des remarques constantes sur la légitimité de la fille à faire ça parce qu'elle n'est pas bonne, parce qu'elle n'est pas douée à certains jeux vidéo, parce que c'est une fille, donc elle ne peut pas être forte aux jeux vidéo. Du coup, il n'y a aucune raison des garçons dans le milieu. Très souvent, on considère qu'il n'y a aucune autre raison pour une fille de le faire à part vouloir de l'argent.
Et est-ce que là aussi, c'est en train de changer? Parce qu'il y a pas mal de secteurs culturels, on va dire, pour parler de manière très large, si on prend par exemple le cinéma avec MeToo ou le monde du journalisme plus récemment avec les affaires autour de la Ligue du LOL, il y a une prise de conscience progressive de ces enjeux dans les secteurs culturels. Est-ce que du côté du jeu vidéo et précisément du streaming de jeux vidéo, là aussi, en coulisses, pour rester sur cette idée, ça, c'est en train de changer?
J'ai pas vraiment constaté, non. Il n'y a pas beaucoup de manifestations encore de filles qui s'expriment contre ça. Il n'y a pas du tout de MeToo, d'équivalent de MeToo. On l'a vu un petit peu sur YouTube, des histoires des abonnés qui se plaignaient que des YouTubeurs masculins aient profité de leur statut, etc. Dans le streaming, je n'ai pas du tout entendu parler de ça. C'est une bataille, les femmes se battent et le disent qu'elles ont assez de devoir se battre pour se faire une place dans le streaming et dans le jeu vidéo. Mais il n'y a pas vraiment non plus de dénonciation fortement ciblée sur certaines personnes. J'ai jamais entendu, moi personnellement, parler de cas de violence sexuelle ou de harcèlement ou quoi que ce soit envers des femmes dans le milieu, non.
Alors, élargissons un peu le spectre, parce que parler de sexisme dans le streaming de jeux vidéo, c'est nécessairement parler aussi de sexisme dans le jeu vidéo en général. Il y a 5 ans, le secteur a été secoué par une grande polémique, le Gamergate, qui, pour la faire courte, en partant officiellement d'une critique de la déontologie des journalistes de jeux vidéo, a muté en une campagne de déchaînement sexiste et antiféministe, et a surtout révélé l'étendue du problème dans le secteur. Seulement voilà, 5 ans après, peu de choses ont changé, et ça je laisse ma seconde invitée, ma consoeur Marie Turcan du site Numérama, le détailler.
On n'a pas eu une grande vague de streameuses aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'inverse, donc on a cet homme qui s'appelle Ninja Tyler Belvin, un Américain qui a la vingtaine, qui est une grande, grande star de Fortnite. C'est le streamer le plus connu aujourd'hui. Il a une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, il a 20 millions d'abonnés. Et lui, récemment, il a affirmé, mais vraiment avec beaucoup d'aisance, qu'il ne streamerait pas en direct avec des femmes. Et donc, tout le monde a regardé un peu ça, mais avec ce que tu racontes. Il a dit, à chaque fois que je stream avec une streameuse femme, le moindre petit commentaire que je peux faire sur elle, après les gens vont croire que c'est du flirt, ils vont reprendre cet extrait, ils vont le mettre sur YouTube, ça va faire du clickbait. Et du coup, ma solution, c'est je ne joue pas avec des femmes. sans se rendre compte donc que c'est un homme extrêmement influent, qui a un rôle important dans cette communauté-là, qui aurait pu mettre en avant, grâce à sa célébrité, d'autres joueuses, et surtout sans se rendre compte qu'il met le doigt sur ce que vivent les femmes streameuses au quotidien. C'est-à-dire, bah en fait, le moindre truc que tu fais en tant que femme va être identifié, va être décrypté, la moindre tenue, le moindre geste, la moindre attention. Et donc, c'est marrant qu'il mette ça en avant, parce qu'en fait, il a identifié le problème, oui. Mais lui, sa solution.
Sans apporter la bonne solution.
Et l'inverse, c'est contre-productif. Alors lui, sa défense, c'est j'ai une copine, elle est jalouse ou pas jalouse même et je veux protéger mon couple. Oui, mais... Et en fait, la solution revient un peu... Elle a été comparée à ce que Mike Pence, le vice-président des États-Unis, avait déclaré l'an dernier. C'était « Je ne fais aucun meeting, je ne fais aucun dîner seul avec
une femme. » Oui.
Ce qui est quand même... Pareil, un constat effroyable sur le alors on va parler de boys club, mais sur le principe de sur combien les femmes vont avoir plus de mal à intégrer ces sphères parce qu'elles en sont exclues, même pas forcément parce qu'elles ont fait quelque chose, mais parce qu'on veut se prémunir des ragots à leur sujet. Enfin, c'est quand même il y a un degré d'éviction là qui est quand même fabuleux, parce que tu peux toi-même être une femme vraiment pas du tout flirty, non pas que ce soit mal d'ailleurs, et tu peux ne pas du tout être dans ces situations-là et quand même être exclu de base. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'évidemment Ninja est suivi par une communauté de gens qui l'ont défendu, qui ont dit bah il fait ce qu'il veut. Et c'est là le problème. Est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux quand tu as 20 millions d'abonnés sur YouTube, 15 millions sur Twitch, je crois qu'il gagne des centaines de millions de dollars par mois. Lui aujourd'hui, il est influent, il a une responsabilité.
Bah oui, on parlait du Gamergate, ce qui a beaucoup changé, là où sur le sexisme ça n'a pas beaucoup évolué, ce qui a beaucoup changé en 5 ans, c'est la place justement que prend le stream de jeux vidéo dans notre consommation culturelle à tous, et surtout dans celle des plus jeunes, où les streamers, tu le disais Marie, sont devenus de vraies stars, ont des communautés énormes. Et donc une responsabilité qui va avec.
Oui, c'est ça. Alors le streaming, il a vraiment vraiment pris son ampleur grâce à Twitch, qui est une plateforme donc où les gens peuvent faire des directs, et c'est souvent des directs de jeux vidéo. La plateforme a été rachetée par Amazon en 2014, donc maintenant c'est vraiment une grosse entité.
Oui.
Et aussi Twitch permet beaucoup d'interactions avec sa communauté. C'est vraiment fait autour de comment gagner de l'argent en tant que YouTuber ou Twitcher, et plutôt Twitcher du coup, avec un chat, avec des possibilités de faire des dons, et surtout aussi avec une possibilité de s'abonner maintenant. Donc tu peux t'abonner, moi je peux m'abonner à n'importe quelle chaîne pour 4,99€ par mois. Ça veut dire que je donne de l'argent à cette personne qui, en échange, me remercie ou m'offre des stickers marrants, et j'ai l'impression d'avoir soutenu son travail. Donc il y a une espèce de lien de communauté qui n'existait pas auparavant.
Ouais.
Où vraiment, quand tu es fan de Ninja, t'as vraiment l'impression de faire un peu partie de sa vie, parce que bah déjà, t'as l'impression que c'est ton petit don qui le fait vivre, et finalement, peut-être, parce qu'à 200 000, je crois que c'est 200 000 abonnements à 5€ par mois, c'est quand même déjà.
Oui,
c'est pas mal en fait.
Enfin,
moi, je cracherais pas dessus en tout cas. Donc cette plateforme-là a un peu renforcé ce sentiment de communauté. Mais dont on parle, et on ne parle toujours pas d'où sont les femmes où sont les femmes dans cette communauté. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis donc 2013, le moment où Marlar, en France, a fait un énorme billet de blog, mais vraiment, c'est une encyclopédie et elle est encore pertinente aujourd'hui, intitulé « Notre communauté est malade, sexisme dans le jeu vidéo ». Et cet article-là est aujourd'hui encore pertinent parce que je ne sais toujours pas vraiment où sont les femmes. Et alors évidemment, on va toujours pouvoir citer beaucoup de contre-exemples. Il y a évidemment des femmes qui font du streaming aujourd'hui, mais est-ce qu'elles sont considérées de la même manière? Pour le coup, j'ai plus de doutes en faisant quelques recherches. J'ai remarqué que, alors évidemment, au début de Twitch, donc il y avait pas mal de femmes qui perçaient parce qu'elles étaient sur un créneau un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elles jouaient aux jeux vidéo en se mettant également en valeur. Donc on voyait leur poitrine, leur décolleté, pas leur poitrine justement, mais vraiment elles étaient habillées de manière évocatrice, qui avait un but à la fois de flirter et à la fois de jouer. Et en fait, ça a été extrêmement mal pris par la communauté gaming, et je mets des guillemets parce qu'évidemment, on va pas faire un not all gamer gamers, donc on va le dire une fois et c'est terminé. Mais ces femmes-là qui avaient compris l'intérêt du divertissement et la mine d'or que ça pouvait être sur Twitch, parce qu'en plus tu peux recevoir des dons et tout, se sont emparées de cette plateforme et en fait en ont été tout de suite exclues. Ouais. Et ont été pointées du doigt en disant vous discréditez la communauté du gaming. Et c'est pas seulement des femmes qui faisaient ça volontairement. J'ai retrouvé un exemple d'une jeune française qui avait 16 ans à l'époque, qui s'appelle Julia Bayonetta, et c'était une streameuse de 16 ans qui faisait énormément de vidéos sur le jeu vidéo, et en fait les gens n'acceptaient pas, enfin certains hommes n'ont pas accepté qu'elle crée une plateforme Tipeee pour gagner de l'argent. Il y a même le roi des rats, qui est maintenant un youtubeur qui fait parler de lui parce qu'il se présente un peu comme un lanceur d'alerte. À l'époque, il avait fait une vidéo de 6 minutes qui est aujourd'hui déréférencée, mais qui existe encore, où il montrait par A plus B que cette fille gagnait de l'argent uniquement parce qu'elle était jolie, et que du coup elle n'était pas compétente et qu'elle n'aurait finalement rien à faire dans le streaming, oui, de jeux vidéo, parce qu'elle, et je me remets des guillemets, discréditerait le milieu du gaming. Et c'est toujours un peu, on en vient globalement à cette présomption d'incompétence. Donc, à partir du, quand tu rentres dans le milieu du jeu vidéo et aussi du streaming, c'est l'homme, par définition, on va lui attribuer une légitimité pour parler de ces sujets-là, parce qu'on va se dire c'est un mec, qui doit aimer les jeux vidéo. Ouais. La personne femme va à l'inverse devoir beaucoup plus faire ses preuves et avoir beaucoup moins le droit à l'erreur. Récemment, sur Twitter, j'ai vu une femme, alors j'ai retrouvé son nom parce qu'elle m'a fait beaucoup rire et j'espère que les gens vont pouvoir la suivre à leur tour. Elle s'appelle Negaoric. Elle a 26 ans et elle stream depuis Los Angeles, et elle a fait une vidéo d'elle en train de jouer à Zelda. Elle a dit après 95 heures, j'ai enfin découvert, et là elle a découvert le tutoriel. Et du coup c'est hilarant parce qu'elle dit putain, on peut faire un backflip, on peut tourner, et c'est très très drôle. Elle se met en valeur et elle dit, enfin vraiment, elle a aucune raison de se justifier. Elle a joué 100 heures à ce jeu, c'est juste que voilà, elle montre une faille du jeu qui est le tuto, il est un peu caché. Si tu tombes pas sur le bon sanctuaire, ouais, au bon moment, tu peux faire la moitié du jeu sans te rendre compte. Et en fait, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais quand j'ai partagé ce tweet, ensuite, j'ai eu des résultats genre, elle est vraiment trop conne, celle-là. Oh là là, elle en sait rien du tout, mais il faut vraiment être débile. Et c'est encore les femmes qui savent rien. Et j'étais même choquée parce que je n'imaginais pas une seule seconde, j'avais imaginé ça. Moi, je pensais vraiment juste qu'on était dans un truc bon enfant de, cette streameuse professionnelle montre un truc et en plus, c'est drôle. Et en fait, pas du tout. Derrière chaque interaction comme ça, il reste des mécanismes sexistes qui sont évidemment systémiques et qui sont impossibles à vraiment déconstruire, notamment parce que la communauté gaming aujourd'hui reste identifiée comme masculine, alors qu'on sait que aujourd'hui les femmes jouent quasiment autant que les hommes, mais on joue pas du tout au même jeu. Donc, je dis que je joue à Fortnite, mais il y a clairement beaucoup plus de jeunes qui jouent, de garçons qui jouent à ce genre de jeu. Par contre, les jeux sur mobile sont à 50% féminin masculin, mais on le met pas en avant non plus. Donc, tu sens qu'il y a des studios de jeux vidéo qui sont en train de se rendre compte de ça et de s'ouvrir un petit peu vers ça, mais on reste dans un écosystème gangréné. Que tu vois dans Apex Legends, le dernier jeu de Respawn qui vient de sortir, où je crois qu'il y a sur 8 personnages, il y a un homme blanc hétérosexuel, et évidemment ça les a rendus fous. Enfin, ils étaient dans un truc en disant c'est pas possible, voilà, il y en a qu'un et en plus il est toxique, vous vous rendez pas compte, c'est quoi ça, est-ce que c'est une femme asiatique, oh là là. Et cet homme, il y a même quelqu'un qui a posté un message en disant mais je viens de découvrir que le personnage que j'adorais jouer était gay, je sais pas ce que je vais faire, il faut le changer absolument. Et tu te rends compte que c'est juste que le jeu vidéo est en train juste de commencer à refléter un petit peu la diversité des, ouais, profils, sans que ce soit vraiment très très bien reçu.
Il y a un élément qui est frappant dans tout ça, c'est que la communauté gaming n'a pas eu son moment Spider-Man. C'est une expression de mon camarade Erwan Cario de Silence on Joue, donc je rends à César ce qui est à César. Erwan, il appelle ça le moment Spider-Man, c'est se rendre compte qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Pour l'instant, la communauté n'en est pas encore là. Qu'est-ce qu'il explique d'après toi?
C'est vrai, ça dépend parce que aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que là, en 2019, on commence un petit peu à avoir des personnalités publiques importantes qui se rendent compte. Par exemple, Squeezie, qui est le youtubeur le plus suivi de France et qui a commencé en étant gamer, enfin qui était un youtubeur gaming, lui a l'air d'avoir vraiment pris conscience de son rôle, de son influence, de chacune de ses vidéos qui fait des millions et des millions de vues. Donc là, dans ses dernières vidéos, par exemple, il touche à d'autres sujets. Et puis, mais vraiment, j'ai l'impression de voir Pascal le grand frère. Enfin, c'est un truc où il donne des conseils.
Sans les cours de boxe.
C'est peut-être que ça va être la prochaine chaîne de Squeezie Boxing. On va avoir des conseils comme c'est pas marrant de taper sur les plus faibles, c'est pas marrant de s'en prendre aux femmes, c'est pas marrant de s'en prendre aux noirs, et juste des petits messages comme ça que je n'avais jamais vu dans une vidéo avant. Et des gens à l'inverse, du coup, sur le même spectre, tu as Ninja qui est dans son délire à fond de j'ai réussi par moi-même, je suis un génie, et je n'ai des comptes à rendre à personne. Et au fond, c'est juste ça la limite, c'est que il y a un moment où, quand tu deviens une personnalité publique, tu as une responsabilité et chacun va mettre ça à l'échelle où il l'entend. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as 5000 followers sur Twitter, tu as déjà une grande responsabilité de ce que tu fais avec ta parole et de l'influence que tu peux avoir. Alors imagine avec 20 millions d'abonnés sur YouTube. Donc on est dans un système où chacun fait encore un peu ce qu'il veut. Et alors c'est maladroit parce que j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de grande figure intellectuelle qui est capable de théoriser quelque chose qui va soudain élever les masses. Enfin, c'est pas du tout ça. Mais je pense que comme on a encore du mal à entendre la parole des femmes au sujet du sexisme dans le streaming de jeux vidéo ou dans le jeu vidéo en soi, forcément la prise de conscience va avoir du mal à se répandre. Donc il va falloir que ce soit des initiatives individuelles, comme avec des grandes stars du streaming, comme on disait. Mais ça peut même s'étendre au streaming en général. Je me souviens, là, en février, il y a eu le grand débatton sur la chaîne Acropolis. YouTube.
Édouard Philippe et les ministres sont venus participer au grand débat sur Twitch.
C'est ça, une dizaine de ministres est arrivée sur la chaîne YouTube sur la chaîne Twitch qui était animée par Hugo Travers et comment est-ce qu'il s'appelle, j'ai noté son nom, il y avait majoritairement des hommes sur le plateau pendant chaque heure, mais vraiment c'était très impressionnant, que ce soit dans les gens qui débattaient ou évidemment les ministres invités, du coup on était en 2019 dans un truc qui était censé être un peu nouveau, et en fait moi j'avais l'impression d'être sur un débat sur France 2 avec un manque de parité évident. Dans le chat il y avait des trolls, c'était classique en fait comme mécanisme. On aurait pu le voir venir à 10 km. Et du coup, ça m'a un peu attristée dans le sens où je pensais que le streaming du jeu vidéo était masculin parce qu'on touchait encore au jeu vidéo. Mais en fait, dans une autre mesure, ce type de streaming-là, qui n'avait rien à voir avec le gaming, a lui aussi été monopolisé par la parole masculine. Et c'était vraiment très, très impressionnant. Parfois, il y avait 8 à 10 personnes sur le plateau avec une ou deux femmes. Et ça, dans le chat, par exemple, personne ne s'en rend compte. En revanche, dès qu'une femme va parler, tu vas forcément avoir un commentaire de « c'est qui celle-là ?» Alors en plus, il s'agit de Marinette femme féministe, dont la chaîne YouTube c'est Marinette femme féministe. Bah, t'inquiète pas que c'est assez de trigger words pour les rendre complètement fous. Donc y a évidemment deux poids, deux mesures, mais ça veut dire aussi que le combat est encore à mener un peu partout, quoi.
Encore du chemin à parcourir donc, mais les choses bougent, la preuve, on en parle ici, en espérant que ce ne soit qu'un début. Merci à Caroline et à Marie Turcan pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, Programme B @binge.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.
comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.